Gloire à Dieu. Nous venons de chanter victoire au Seigneur de la vie. Ça ne reste. Non, ça vous dit rien, ça? Le Seigneur de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Je crois que c'est un Dieu unique, tout-puissant, et qui, par son Esprit, est présent au milieu de nous. Alléluia! Bon, c'est pas très chaud. Nous allons faire une courte lecture dans Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire deux versets. 21. Colossiens 1, 21. Notre frère M. Gau nous disait dimanche dernier, je pense que vous l'avez retenu, c'est qu'il ne suffit pas d'entendre mais d'écouter. Vous vous en souvenez ? Oui, oui. C'est un oui timide, ça. Oui, il faut écouter. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet de méditer et ça nous permet ensuite de mettre en pratique la parole de Dieu. Si on l'entend seulement, on l'oublie. Alors, vous voyez, il faut écouter la parole de Dieu. Nous lisons ces deux versets. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Il y a des mots très forts dans ce passage, n'est-ce pas, quand il est dit « demeurez saint, sans reproche, fondé, irréprochable ». C'est beaucoup, ça. Mais l'apôtre Paul, qui sans conteste était inspiré, savait ce qu'il disait. Alors, il faudrait pouvoir comprendre le sens de la parole de Dieu. Nous en avons l'habitude de la parole de Dieu. Nous connaissons beaucoup de passages. Nous la lisons chez nous, nous l'écoutons dans les réunions. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, que l'entendre. Il faut aller au plus profond de ce qui est dit, de ce que Dieu nous a dit. Parce que toute la parole est une source d'instruction. Et il faut donc que nous puissions réaliser cela. L'idée générale qui consiste à simplement croire en l'existence de Dieu, c'est insuffisant. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu proprement dite, telle qu'elle nous est donnée. Ça, c'est plutôt une idée religieuse. Mais il est évident que nous devons réaliser que la vie chrétienne ne peut pas être approximative. Il faut qu'elle soit très claire dans nos cœurs, dans nos vies, et pour cela, il faut la mettre en pratique. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais vous présenter cette réflexion personnelle, et je vais vous proposer une association de deux versets. Deux versets sous la forme d'une addition, ou d'une équation pour ceux qui sont dans les facultés, qui nous donne un résultat. Parce que toute la parole est bonne. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, il faut me le dire. Hein. Si je parle tout seul dans le vide, c'est qu'il y a problème. Hein. Alors, vous me dites ce que vous pensez, enfin, vous dites amen à la parole de Dieu. Ça sera mieux. Voilà, le premier verset que je voudrais vous proposer, c'est Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. En attendant, tant que vous cherchez, je nous pose cette question. Savons-nous estimer ou évaluer notre condition spirituelle? Est-ce que nous avons pensé à cette chose-là, savoir où nous en sommes par rapport à ce que Dieu attend de nous, à ce qu'il nous dit de faire, au commandement qu'il nous a laissé? Toute la parole de Dieu parle de cette condition spirituelle. Nous savons que l'apogée de cette condition spirituelle, c'est la garantie d'aller un jour dans la gloire céleste. Mais sur la terre, nous le traduisons même dans nos prières encore ce soir, il y a bien des incertitudes, des difficultés. La vie est faite de problèmes et il faut passer au travers. Mais il y a la grâce de Dieu. Alors savons-nous estimer cette, ou évaluer cette condition spirituelle? On va essayer de le voir en quelques mots. Philippiens 2:8 nous dit ceci, que Jésus, celui qui, dont il est question, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je voudrais qu'on retienne « rendu obéissant ». Le Christ était obéissant dans la présence du Père. Il n'a jamais été désobéissant. Mais pourtant, il est allé au-delà de cette obéissance et il s'est rendu obéissant afin que sa mort puisse nous permettre d'accéder au salut de Dieu. Ça dépasse toute imagination, même l'explication n'est pas parfaite. Il est incontestable que Dieu a fait en Jésus-Christ une œuvre unique qui ne sera jamais renouvelée et qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer en bien. Dès l'origine des temps, d'ailleurs, la même chose s'est produite en quelque sorte. Quand Dieu a placé Adam sur la terre, il lui a dit ceci. Il lui a dit, tu mangeras de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce que Dieu a dit ici à Adam, c'est un commandement, c'est un ordre. C'est incontestable à nos yeux, sur le plan humain, mais pas dans le plan de Dieu. Parce que pour Dieu, un commandement qu'il nous adresse à nous, c'est un commandement salutaire. Dieu poursuit un but depuis l'origine des temps. C'est de sauver l'humanité. Il y en a qui accepteront, d'autres qui n'accepteront pas. Mais Dieu propose un salut à tout le monde, à tous. C'est un commandement salutaire. C'est l'amour de Dieu qui permet qu'il puisse parler ainsi. L'homme ne sait pas parler ainsi. Les hommes, ils font des lois. Les lois sont bêtes et méchantes. Elles sont inapplicables la plupart du temps et c'est toujours quelque chose qui coupe, qui tranche. Ça n'a aucune valeur. Mais Dieu donne des ordres salutaires. Et Adam s'est trouvé dans cette situation. Il a entendu Dieu et apparemment il n'a élevé aucune contestation. Il a accepté cela. Mais Adam n'a pas tenu pendant peut-être une centaine d'années, puisqu'il a dû rester dans le jardin d'Éden environ moins de 130 ans, mais à peu près. Mettons une centaine d'années, puisque son premier-né est né quand il a été chassé du jardin d'Éden, il avait 130 ans. Pendant donc un certain nombre d'années, il a appliqué la règle de Dieu. Et il était dans le jardin d'Éden. Tout était impeccable. Il n'y avait pas de soucis, pas de tracas, tout était bien. Et puis un jour, il a pas tenu sa parole et il a goûté de ce fruit. Le premier choix qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden, ça a été de désobéir. Alors que Dieu demande l'obéissance. Les conséquences de cette désobéissance, nous les connaissons malheureusement. Ça a été une catastrophe pour eux, chassés du jardin d'Éden, dans une terre difficile, avec des enfants dont l'un des frères sera le meurtrier de l'autre. Certainement qu'il y a eu beaucoup de peine, de larmes, de pleurs chez Adam et Ève à cause de leur folie. Mais ils avaient désobéi. Nous avons la parole de Dieu. Et depuis l'origine des temps, elle nous dit d'obéir. Combien de fois dans la parole de Dieu il y a ce terme obéir, obéissance? Combien de fois Dieu nous met en garde? Combien de fois Dieu nous dit obéissez? Mais toujours dans cet esprit salutaire. Et ça, nous avons par l'habitude, par la tradition, nous avons tendance à l'oublier. En partie, ce n'est pas la désobéissance franche, mais nous manquons parfois de clarté dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles. Et ça, c'est une forme de désobéissance. C'est dommage, parce que Dieu nous a préparé que des promesses, même sur la terre. La bénédiction de Dieu repose sur ses enfants, sur cette terre. C'est vrai que par sa patience et sa grâce, il a plani nos sentiers, c'est vrai. Mais il ne peut pas passer sur tout, parce que dans le ciel, la désobéissance, il n'y en aura pas. Il n'y aura que les obéissants. Alors, aujourd'hui, nous avons un exemple dont c'est Jésus-Christ, rendu obéissant. Il ne faut pas que nous oublions ce terme « rendu », parce qu'il a accepté de venir pour nous. Il a dit un jour au Père, « Je viens pour faire ta volonté ». Il est venu pour mourir. Et dans quelles conditions? La parole de Dieu nous relate cette crucifixion, cette agonie, dans des termes extrêmement, d'ailleurs, raisonnables. Il n'y a pas l'exposition de la souffrance extrême, des choses misérables qu'il a dû supporter. Mais nous voyons quand même cet immense amour. Il s'est rendu obéissant jusqu'à cette mort. Nous devons nous réfléchir, nous devons estimer notre condition spirituelle par rapport à l'obéissance. L'obéissance, c'est un choix que nous devons accepter de faire devant Dieu et nous devons tenir notre promesse. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Savez-vous qu'un jour, nos yeux verront la gloire de Dieu? Ce sont des choses qui existent, qui sont réelles. Nous sommes dans la réalité. Et cette réalité, elle est exprimée ici. Je voudrais vous parler maintenant de ce deuxième point. Un deuxième point qui permet justement de voir comment nous pouvons progresser. Quand Jésus s'est rendu obéissant, il ne l'a pas fait par obligation. Il l'a fait par conviction. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire et il savait. Et il l'a fait de tout son cœur, de toutes ses forces. Quand nous allons pour chercher du secours à Dieu, parce que pour parvenir à l'obéissance, il nous faut du secours, un secours qui n'est pas humain, puisque tout ce que nous pouvons nous apporter n'a aucune valeur. C'est donc un secours que nous venons chercher auprès de Dieu. Et la Bible nous le présente. Elle nous en parle. Elle nous montre la voie. Merci Seigneur, puisque Dieu nous permet de connaître sa parole. Alors, je voudrais avec vous lire un autre passage dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Il nous est dit ceci. Il nous a dit ceci. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, etc. » Je voulais qu'on retienne cette première partie. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une autre version dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, pour bien situer cette partie de verset, il faut la commencer par la fin. Mais on arrive quand même au même résultat, ne vous inquiétez pas. L'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Beaucoup le confondent avec l'instruction. C'est une erreur monumentale. L'instruction, c'est un savoir que Dieu donne aux hommes afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Ils en ont fait n'importe quoi d'ailleurs, surtout des bêtises. Mais l'intelligence, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui a une valeur autrement importante que l'instruction. Et Dieu, il veut, par l'intelligence, nous permettre de comprendre. Nous lisons cela dans le Proverbe, Proverbe chapitre 2. Nous allons le lire, ce passage, parce qu'il est très important et il est très bien, très bien, dans le temps dans lequel nous vivons. Chapitre 2, verset 1er, il a dit ceci. Mon fils, dont Dieu s'adresse bien à ceux qui lui appartiennent. Mon fils, si tu reçois ma parole, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, il faut noter que la sagesse et l'intelligence dans la Bible sont souvent associées et sont parfois comparables. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voyez-vous ? Si tu cherches la sagesse comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, c'est un trésor l'intelligence. C'est un trésor. Il n'y en a pas de plus beau sur cette terre. Ce trésor, c'est Dieu qui nous l'offre. Il nous donne la possibilité, dans ce trésor, de comprendre et de connaître les choses qui concernent le royaume de Dieu. Avec ça, nous avons tout ce qu'il nous faut pour comprendre et pour diriger notre vie, parce que c'est cela qui fait notre force. Et c'est par l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous que nous pouvons accéder à cette connaissance. Un trésor. Ah, dans le monde, il y en a qui en cherchent des trésors. Hein. Ils font beaucoup de choses pour trouver quelque chose. De l'or ou de l'argent, n'importe quoi. Mais ces trésors-là, la parole de Dieu en parle, mais ils passent. Ils n'ont pas beaucoup de vie, de durée de vie. Mais ce trésor-là, il dure éternellement. Et Dieu nous le donne. Si donc nous cherchons l'intelligence, nous possédons tout ce qu'il nous faut pour marcher dans les voies de Dieu et obéir à sa parole. Par contre, ce qu'il faut aussi tenir compte, ce qui est écrit, c'est qu'il faut renouveler cette intelligence. En effet, l'intelligence, c'est une chose que nous devons en quelque sorte demander en tout temps. En tout temps, nous devons demander à Dieu de nous accorder la sagesse et l'intelligence. Et il faut renouveler cette demande, parce que c'est le plus grand trésor que notre vie peut avoir. Notre cœur se trouve transformé par ces choses-là. Et c'est ce que nous dit ce passage de Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais si nous mesurons la valeur de ce verset, et de bien d'autres, bien sûr, mais nous nous rendons compte que Dieu est grand. Il propose quelque chose que tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut prétendre à recevoir la sagesse et l'intelligence. Il n'y a pas besoin de faire de hautes études. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de particulier. Dieu nous le donne. Si nous le demandons, si nous le cherchons, si nous insistons dans la demande, si nous y mettons tout notre cœur, alors oui, Dieu nous donne cette intelligence, ce trésor. Et ce trésor, nous l'avons. Parce que ce trésor, nous l'avons reçu de Dieu. Mais c'est à nous à l'utiliser pour que cela nous serve, à nous permettre de marcher dans ses voies et d'obéir. Par l'obéissance, nous aurons et nous obtiendrons tout de la part de Dieu. Et je voudrais vous dire cela parce que il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons faire les choses selon ce que nous pensons de bien, mais nous n'y arriverons pas. Nous ferons que des choses approximatives. Et dans beaucoup de lieux, la vie chrétienne est devenue approximative. Alors il y a des choses bonnes, à la limite, et puis il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais ce mélange, ça ne satisfait pas le cœur de Dieu. C'est toute la vérité qui peut seulement le satisfaire. Et nous l'avons par sa parole. Alors ces choses, elles nous ont été laissées pour que nous puissions les réaliser. David l'avait compris. Il écrit dans le psaume 36, au verset 10, il dit « À ta lumière, je verrai la lumière ». C'est-à-dire que parce que tu m'as éclairé, parce que tu m'as donné de comprendre et de connaître, je comprends et je vois où est mon chemin et où je dois marcher pour aller au ciel. C'est cela qu'il dit David. À ta lumière, c'est ta lumière, la lumière divine. Eh bien, moi, je vois. Sans cette lumière, je ne vois pas. Mais avec cette lumière, je vois. Et je vois ce qui est de Dieu et ce que Dieu me propose. Et il ne me propose que des choses favorables. Alors notre vie, qui est souvent une vie très, très troublée, dans les temps que nous vivons, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas très jolies. Et il y a du trouble, il y a de la confusion, il y a du désordre, il y a du péché, évidemment. Mais pour celui qui est en Dieu, ces choses-là, il les évite. Ce sont des obstacles, mais on les contourne et on passe au travers, parce que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Beaucoup de croyants et de chrétiens aujourd'hui, et je pense que nous sommes de cela, par la grâce de Dieu, ne possèdent pas une église où on annonce la vérité. Et malheureusement, ces choses font que ce sont des rassemblements qui ne sont pas en conformité avec l'Écriture. Et l'Esprit de Dieu ne s'y développe pas. Mais par la grâce de Dieu, je pense que l'Église de Jésus-Christ qui est ici est en mesure de voir des grandes choses, de plus grandes choses. Je suis persuadé que l'Esprit de Dieu veut se manifester. Vous savez, du temps de l'Église primitive, il y avait des manifestations extraordinaires. Quand l'Esprit parlait, quand l'Esprit agissait, ça faisait du bruit, ça faisait du changement, ça faisait des prodiges et des miracles. Mais ces choses-là ne sont pas finies. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. On est d'accord, hein ? Qui c'est qui a changé alors ? Ben, c'est nous. C'est nous qui changeons. Une église n'existe que parce qu'il y a des membres. Si les membres sont spirituellement en progrès, ce que Dieu nous demande, ben l'église progresse. Si nous sommes endormis, ben l'église dort. N'est-ce pas ? Et je crois que là, il y a quelque chose à voir. Dieu nous donne toutes les possibilités. Je crois que dans cette église, il n'y a pas beaucoup de choses à faire afin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Elle y est déjà, mais je crois qu'on peut voir plus grand encore. On peut voir venir des foules, venir à la connaissance de l'Évangile. On peut voir la puissance de Dieu se manifester, des gens repartir guéris, des choses qui ne sont pas du catalogue humain, mais qui sont de tout ce qui vient de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie. Elle est permanente, elle est vivante et elle s'accomplit. C'est à nous de le croire et de le vivre. Et à ce moment-là, nous serons sur la voie que Dieu nous a tracée. Cette voie, eh bien, nous allons le voir avec le troisième point. Parce que si on prend Philippiens 2:8 et qu'on ajoute Romains 12:2, on obtient Hébreux 12:14. Voilà, l'équation est réalisée. Au premier degré, peut-être, je ne sais pas, mais en fait, ce n'est pas important. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hébreux 12:14 ? Ah. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous voulez qu'on le regarde ? On devrait le connaître par cœur. Par cœur. Alors, on va le lire, puisque... Oh, c'est vite lu, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, 12:14, il nous est dit ceci. Je ne sais pas où je l'ai là, non, ça n'a pas d'importance. sans la... La quoi ? Personne ne le connaît, ça ? Vous m'inquiétez, hein ? Ah, je suis inquiet. Hein. Sans la sanctification, tout le monde verra le Seigneur. Et non, personne. C'est dur, ça. Hein. C'est dur. Alors, à ce moment-là, qui est sauvé ? Qui peut être sauvé ? Mais qu'est-ce que c'est la sanctification ? La sanctification, ce n'est pas qu'au moment où on arrivera devant Dieu qu'on sera, on aura acquis la sanctification. La sanctification, elle commence dès l'instant où on est converti. Mais c'est tout simplement la marche chrétienne selon la parole de Dieu. Un vieux pasteur, oui, il était vieux puisqu'il a tout du début de il y a 150 ans, il disait cela. Il disait la sanctification, c'est la marche normale d'un chrétien dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc la sanctification, c'est un état qui, normalement, dans l'Église, dans la vie chrétienne, doit être progressif. Il doit augmenter de jour en jour. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en voulant faire tout à la fois, on ne fait rien. Non, il faut y aller d'une manière raisonnable et entreprendre progressivement de corriger tout ce qui, dans nos vies, Dieu réprouve et que l'Esprit nous fait ressentir, si nous sommes honnêtes, de telle sorte que nous allions de progrès en progrès. C'est ça. Alors, ce n'est pas la perfection. Parce que la perfection, elle n'existe pas sur la terre, et elle n'existera pas même au sein de l'Église. Mais c'est quand même une progression vers la perfection. Si dans notre vie chrétienne aujourd'hui, nous n'entreprenons pas cette démarche de dire, voilà, bon, j'en suis à ce niveau, mon niveau spirituel, il est ce qu'il est, j'ai des progrès à réaliser, certains sont relativement faciles, avec un petit peu de bonne volonté, on y parvient, d'autres sont plus difficiles. Mais c'est là où l'intercession, la prière nous permet d'avancer et de faire et de remporter des victoires. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, héritier de Dieu, nous avons à remporter des victoires, puisque ces victoires ont été acquises par Jésus-Christ. En fait, nous nous emparons de victoires. Et cela doit nous appeler à réaliser que cela est demandé pour notre bien par Dieu à chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est arrivé au top niveau là. Hein. Nous avons tous, du plus jeune au plus vieux, à réaliser des progrès. Tous, sans exception. Mais ces progrès sont bénéfiques à nous, évidemment, mais bénéfiques à l'Église. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église c'est nous. Si nous progressons, si nous grandissons, si nous remportons des victoires, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est l'Église qui en profite. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est simple, la parole de Dieu, hein, sauf qu'il faut, il faut la replacer dans la réalité de chacun d'entre nous. La parole de Dieu n'est pas un livre que l'on lit, que l'on met sur une étagère. C'est pas quelque chose qui apparaît ou qui disparaît. C'est quelque chose de vrai, c'est la vérité. Hein ? L'apôtre Jean le disait, nous sommes dans le véritable. Nous y sommes dedans. Dieu nous y a inclus. Et la vie qui est pour nous dans la parole de Dieu, nous devons la montrer, nous devons la vivre. Chacun d'entre nous, à titre personnel, mais la vivre dans l'Église. Nous réalisons bien des choses. Il y a ici bien des jeunes, des moins jeunes qui s'engagent. Il y a tout cela. Ce sont des bonnes choses et c'est nécessaire. Mais même dans l'engagement, même dans l'ancienneté, eh bien, nous avons des progrès à réaliser. Et il faut le faire. Et il faut le faire parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Dans le ciel, tout sera réglé. mais il faut le régler avant d'aller au ciel. Vous êtes d'accord? Dur de dire, hein? J'entends pas beaucoup d'amen. C'est vrai que je suis un peu sourd, alors. Donc, nous en sommes à ce niveau. Le désir de sanctification, ça aussi, ça doit être une conviction, pas une obligation. Si c'est une obligation, nous pouvons arrêter de suite, ça ne sert à rien. Dieu n'a que faire de ce que nous voulons, nous faisons par la raison, parce que les autres le font, tout ça. Dieu n'est pas intéressé. Il cherche des cœurs convaincus, qui font, avec leurs moyens, faibles moyens souvent, qui font des efforts pour parvenir à un succès, à une réussite spirituelle. Parce que tout est spirituel, en fin de compte. Notre vie de tous les jours, si nous voulons y regarder de plus près, c'est par la grâce de Dieu, que nous sommes encore en vie d'ailleurs, pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais c'est spirituel, parce qu'il y a l'essence de Dieu, il y a le souffle de vie, tout vient de Dieu. Et souvent, nous mettons Dieu de côté. C'est dommage. Dieu est patient, d'accord, mais c'est dommage. Parce que nous nous privons de grandes promesses. Et Dieu veut nous les donner, puisqu'il les a préparées, il les dit à l'avance. Il suffit de puiser. C'est un trésor. Le trésor de Dieu. Alors, je voudrais essayer, avec des mots c'est difficile, de provoquer un déclic dans vos cœurs. Croire en Dieu, c'est bien. Mais vivre de Dieu et pour Dieu, c'est mieux. Et il faut que nous arrivions à cela. Il le faut. Mes frères, mes sœurs, si nous ne progressons pas, nous stagnerons, nous nous endormirons, et un jour, nous finirons, sans avoir rien réussi, avec des efforts qui auront pu être considérables, mais à côté de la plaque. Par contre, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous nous préparons en conséquence, si nous faisons ces efforts spirituels, essentiellement spirituels, alors nous verrons la gloire de Dieu. Moi, je suis en fin de circuit, hein, mais je voudrais voir la gloire de Dieu. Je voudrais la voir. À mon âge, vous savez, on ne dort pas trop la nuit. Alors je prie, bien sûr, comme tout le monde. Et je dis souvent, Seigneur, je voudrais voir ta gloire dans l'Église. Et ça, ce n'est pas une obligation, c'est une conviction. Alors, j'insiste. Je crois que il y en a d'autres, mais je crois qu'on devrait tous en être là. Voir les choses de notre vie changer. Voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de plus belle chose que ça dans ce monde. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce monde? Ah oui, il y a des rassemblements de millions de personnes à droite et à gauche. Ça finit toujours dans la misère, dans la détresse. Mais ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est l'action du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps, aujourd'hui on ne parle pas. Mais le Saint-Esprit s'intègre dans tout cela. Et là, on voit des choses que le monde ne peut pas voir et qu'il ne verra jamais, à moins qu'il se convertisse. Mais pour se convertir, il faut qu'il y ait des chrétiens établis, qui ont une vie sainte, qui sont donc en bonne santé spirituelle, qui sont donc des témoins fidèles, incontournables, irrépréhensibles, irréprochables, à qui on ne peut pas faire de reproches, etc., etc. On rejoint ce que l'apôtre Paul a dit. Tout tourne autour de la grâce de Dieu. Et il faut donc considérer que ces choses, si elles ont été écrites, c'est certes pour notre enseignement, mais c'est pour que nous les pratiquions. Dans la première aux Corinthiens, l'apôtre Paul il dira aussi que Christ a été fait pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Sanctification, ça réapparaît. La sagesse, l'intelligence, elle figure là. La rédemption, c'est l'amour de Dieu à la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Oui. Alors, je vous laisse sur cette pensée. Elle vaut, par les paroles, pas grand-chose, mais par ce que Dieu dit, elle est importante. Et il faut s'en souvenir. Il faut qu'ensemble, nous luttions. Individuellement, c'est bien pour nous, mais c'est insuffisant pour vaincre les puissances qui sont dans ce monde. Il faut l'unité de la foi, il faut l'Église constituée, resserrée autour du Seigneur Jésus, qui puisse ainsi provoquer ce monde et lui montrer que le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu unique et vivant et tout-puissant. C'est ça notre témoignage. Nous sommes des enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. On a des titres honorifiques considérables. Hein ? Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous ferez de ce que vous avez entendu ce soir ? Moi, je ne sais rien. Mais Dieu sonde les cœurs. Est-ce qu'il va trouver une étincelle dans chacun de nos cœurs en disant « Ah, quand même, je vais essayer de faire un petit effort ici. Alors, je vais compter sur la grâce de Dieu, je vais m'approcher de Dieu et je vais lui demander de m'aider. » Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que Dieu peut le faire ? Eh oui. Alors, je vais arrêter là. Je vous rappelle simplement ma petite équation. Philippiens 2,8 plus Romains 12,2 égale Hébreux 12,14. Je ne sais pas ce que vous en ferez. Je n'en sais rien. Ce qui importe, c'est que vous puissiez prendre votre place, vous positionner devant Dieu et agir en conséquence afin qu'au milieu de nous, nous puissions voir des choses que notre entendement et nos yeux naturels seront dans l'impossibilité de soutenir, tellement ce sera beau, la gloire de notre Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir, si ce n'est, mon Dieu, la foi que tu nous as donnée et que nous voulons mettre en avant, mon Dieu, pour entrer dans une meilleure connaissance des choses qui concernent ton royaume. Seigneur, veuille, dans ta grâce infinie, avoir pitié de nous. Nous sommes que des hommes, Seigneur, et nos limites sont connues. Mais toi qui es le Tout-Puissant, tu es mon Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, aie pitié de nous. Et accorde-nous, mon Dieu, de voir ta gloire. Non pas, mon Dieu, pour nous-mêmes, à la limite, mais pour tous ceux qui ont besoin de toi. Pour ce monde qui se perd. Pour nos familles qui se perdent. Pour nos enfants, nos petits-enfants, qui sont tenus par les liens de ce mal qui rôde dans ce monde. Seigneur, manifeste-toi par ta puissance. Éclaire-nous, dirige-nous. Mon Dieu, que nous puissions vivre de toi et que la foi, mon Dieu, et la grâce qui nous accompagne produisent, mon Dieu, des manifestations glorieuses par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, que ces moments soient bénéfiques à chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions entamer une démonstration, mon Dieu, qui puisse te glorifier au milieu de nous. Seigneur, merci, merci dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen.